VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Au Mali, 3 militaires maliens tués dans la nuit de mardi à mercredi dans une attaque des djihadistes à Léré, localité de la région de Tombouctou dans le nord du pays, selon une source sécuritaire malienne. Les djihadistes s'en sont pris à un poste de l'armée malienne au sud-ouest de Tombouctou. Nous avons perdu 3 hommes, a déclaré à l'AFP cette source militaire sous couvert d'anonymat. Selon cette même source, 2 terroristes auraient été blessés et récupérés par leurs compagnons d'armes. Les attaques meurtrières contre l'armée malienne se sont multipliées ces dernières semaines dans le nord du Mali. On passe maintenant aux élections en Afrique. Élections au Niger, poursuite du dépouillement du scrutin présidentiel. Les résultats tombent au compte-gouttes. Après des comptes de 15% seulement des voix dans 50 des 308 communes du pays, le président Mahamadou Issoufou est en tête avec 33,78% des suffrages. Deuxième, Ahmad Amadou avec 26,38%. Et troisième, Seni Oumarou. Mais l'opposition a déjà annoncé son intention de ne pas reconnaître les résultats publiés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les opposants dénoncent des fraudes électorales perpétrées selon eux par le parti au pouvoir. Des allégations rejetées par la mouvance présidentielle. On écoute Ouroumoudou Mahamadou, directeur de campagne du président Issoufou, au micro de notre envoyé spécial à Niamey, Nicolas Pinault.
En fait, cette déclaration est une réponse à la déclaration que l'opposition nigérienne a faite hier, dans laquelle elle disait clairement que les résultats que la CENI est en train de publier sont faux et qu'ils appellent les Nigériens à ne pas les accepter. Nous, partis membres de la mouvance présidentielle, nous savons que cette déclaration est totalement mensongère. Parce que comment est-ce que en début de proclamation des résultats, vous pouvez déjà annoncer que les résultats sont faux? Comment est-ce que dans un système électoral où vous êtes représenté à tous les échelons de la structure, vous pouvez venir au sommet contester les résultats alors que vous n'avez pas reçu la remontée des résultats de la base? Donc, par rapport à ça, nous avons dit que nous n'accepterons pas ce mensonge. Du reste, d'ailleurs, pour amplifier le mensonge, ils font croire que des bureaux fictifs ont été créés tout récemment, après l'audit du fichier par l'OIF, ce qui est extrêmement impossible. Parce que dans chaque bureau de vote, il y a un représentant de chacun des candidats, un représentant de chacun des partis politiques. Et au niveau de chaque démembrement de la CENI, ces partis sont représentés et ces candidats sont représentés. Donc, s'il y a des bureaux fictifs au niveau de la compilation, on les verra puisque les résultats sont donnés bureau de vote par bureau de vote. Donc c'est extrêmement faux et c'est vraiment malheureux que des partis politiques et des personnalités de ce rang puissent faire de telles déclarations pour ternir l'image du pays et ternir l'image des organisations indépendantes chargées d'organiser les élections au Niger.
Oumoudou Mahamadou, directeur de campagne du président Issoufou, au micro de notre envoyé spécial au Niger, Nicolas Pinault. Élection aux Comores maintenant, le vice-président du pays et candidat du parti au pouvoir, Mohamed Ali Soili, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche avec 17,61% des voix. Deuxième, Mouni Baraka, gouverneur de l'île de la Grande Comore. Et troisième, le colonel Azali Assoumani. Ces 3 candidats sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle le 10 avril. Et puis en RDC, Human Rights Watch demande au gouvernement de mettre fin à la répression visant les opposants politiques présumés. L'Organisation américaine de défense des droits de l'homme dénonce entre autres les arrestations arbitraires dont ont été l'objet 9 jeunes en marge de la journée ville morte organisée le 16 février par les opposants à un 3e mandat du président Joseph Kabila. Eddie Sango.
Manifester pacifiquement n'est pas un crime et les autorités congolaises devraient immédiatement libérer toutes les personnes injustement arrêtées sous des accusations fallacieuses, indique Human Rights Watch dans un communiqué publié hier. L'Organisation de défense des droits de l'homme fustige l'arrestation à Goma et à Kinshasa des 8 jeunes membres du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha, basé à Goma. Pour Human Rights Watch, les chefs d'accusation portés à l'encontre de ce jeune semble être politiquement motivé. L'ONG les qualifie de fabriqués de toutes pièces. Kinshasa accuse pour sa part l'ONG américaine d'immixtion dans un dossier judiciaire, selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende à l'AFP. L'appel lancé par des opposants pour une ville morte le 16 février avait été largement suivi à Kinshasa et partiellement dans d'autres provinces. L'opposition et les activistes mettent la pression sur le président Joseph Kabila afin qu'il respecte les délais constitutionnels en organisant les élections avant novembre sans s'y représenter pour un troisième mandat.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise au Burundi, l'opposition burundaise en exil dénonce une fausse ouverture après l'annonce par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, que le président Pierre Nkurunziza a accédé à sa demande d'engager un dialogue inclusif avec les opposants politiques. Pour des précisions, Timothée Donangmaya, joint à Dar es Salaam en Tanzanie, Hussein Rajabu, leader d'une faction du CNDD-FDD, le parti au pouvoir à Bujumbura.
Cette suggestion de Ban Ki-moon n'est pas la première. C'est une suggestion qui succède aux autres provenant de l'Union européenne, l'Union africaine et d'autres coins du monde. Donc pour nous, c'est une très bonne suggestion. Et malheureusement, c'est lui qui devrait faire un bon geste pour que cette suggestion puisse apporter des fruits. C'est dès le directeur de Nkurunziza. Et malheureusement pour lui, chaque fois, tantôt il accepte, tantôt il renie à ce qu'il avait déjà accepté. Donc ce n'est pas pour la première fois, seulement cette fois-ci, il y a une très grande intensité de pression et nous pensons que Nkurunziza va se courber devant cette suggestion et surtout devant d'autres pressions qui vont suivre.
Le président Nkurunziza, aux dernières nouvelles, a accordé une grâce présidentielle à un certain nombre de détenus. Avant cela, il avait fait lever le mandat d'arrêt contre certains exilés burundais. Est-ce que ce ne sont pas là des gestes de bonne volonté?
Écoutez, j'ai un geste devant moi. Ce n'est pas un geste de bonne volonté, mais c'est surtout un geste de pouvoir manipuler la communauté internationale. Dans ce décret, il montre que ceux accusés d'atteinte à la sûreté de l'État ne sont pas inclus parmi ceux qui devront être graciés. Alors ceux-là, ce sont des politiciens.
Quelle est la situation aujourd'hui au sein de l'opposition? On a l'impression qu'elle aussi est divisée en différents groupes.
Normalement, l'opposition, on peut dire qu'il y a des ambitions qui suivent cette ligne directrice de pouvoir arrêter la violence dans le pays. Et ces ambitions-là, ce sont des ambitions de positionnement, mais l'opposition est en train de se concerter. Et d'ailleurs, pour le moment, ils se rassemblent pour pouvoir faire des réunions de 2 ou 3 jours. Par là, je parle du Sénat. On sent très bien que ces différents vont être mis à l'écart. Et sinon, pour toute l'opposition, maintenant, on pense comment arrêter la violence, comment mettre à terme ces violences qui font endeuiller les Burundais et comment pouvoir participer au dialogue inclusif.
Hussein Rajabu, leader d'une faction du CNDD-FDD, joint à Dar es Salaam en Tanzanie. Et pour terminer, en Afrique du Sud, la chambre basse du Parlement a adopté un projet de loi qui ressemble à un premier pas vers la réforme agraire. Éric Manirakiza.
La question de la terre reste sensible en Afrique du Sud, 22 ans après l'apartheid. La chambre basse du Parlement a adopté hier un projet de loi permettant au gouvernement d'acheter la terre en fixant son prix et aux besoins en expropriant dans l'intérêt public. Pour devenir une loi, ce projet doit d'abord être approuvé par le Sénat, puis promulgué par le président Jacob Zuma. Il s'approche d'une réforme agraire, mais se différencie des expropriations forcées comme au Zimbabwe. Les partis d'opposition et les gros fermiers blancs l'ont dénoncé, mais pour l'ANC au pouvoir, c'est le moyen de rendre équitable l'accès à la terre et aux ressources naturelles. Depuis 1994, près de 8 millions d'hectares ont été transférés à des fermiers noirs, ce qui représente à peine 8 à 10 % des terres détenues par des blancs.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.